voilà, on se retrouve pour une nouvelle émission des Carnets de Caumaguerre, ce mardi à 15h dans les studios Dragon et Galère, en compagnie d'Aïcha, que je salue, que je remercie.
Coucou.
Bonjour. Et en compagnie de Roselyne et Habib, bonjour, mes complices favoris, qui sont là.
Merci.
Voilà, je vais commencer par une annonce qui est relative à une conférence qui a lieu la semaine prochaine, mais comme la semaine prochaine, le mardi, c'est la Toussaint, nous ne nous verrons pas, nous ne nous écouterons pas. Il n'y aura pas d'émission. Par contre, il y aura une rediffusion d'une émission ancienne que j'ai déjà sélectionnée. Ce sera d'ailleurs un extrait, très long d'ailleurs, de la séquence africaine qui a été tenue à l'occasion des paroles de Galère au début du mois de septembre. Donc j'ai raccourci ça au format de 60 minutes. Ça donne l'essentiel de ce qui a été exprimé pendant cette table ronde et l'essentiel des interventions qui sont venues de la salle. Donc ça, ce sera pour mardi prochain. Mais en attendant, puisque je vais vous annoncer une conférence qui a lieu le jeudi 3 novembre, c'était le moment de le faire. Et ça s'appelle « Cuba sous embargo ». Et je vous lis, j'allais dire, l'exposé des motifs. Les États-Unis, et ça tout le monde le sait, enfin tous ceux qui veulent le savoir le savent, ont déclaré la guerre à leurs petits voisins en 1962. Je rappelle que la révolution castriste, la révolution cubaine, avait eu lieu 3 ans avant et qu'à partir de 1959, tous les gouvernements des États-Unis ont eu comme seul souci et comme seule préoccupation de détruire la révolution cubaine. Et les Cubains avec, puisque ça leur connaissait, menu frontin, 10 millions d'habitants, qu'est-ce que c'est pour nous la superpuissance et tout. Bon, ils n'y ont pas réussi, mais quand même ils ont essayé. Et j'explique pourquoi, puisque pour ne pas envahir l'île et ne pas avoir à noyer sous les bombes 10 millions de Cubains, ils ont simplement choisi de les étrangler à petit feu, de les assiéger, de les condamner à la faim et au sous-développement. C'est ça qu'on appelle l'embargo et même le blocus, c'est-à-dire leur interdire d'acheter ce dont ils ont besoin, en échange de ce qu'ils pourraient vendre, leur interdire même d'acheter un matériel, je pense à un avion qui pourrait être fabriqué, allez, disons, en France ou en Russie, dans lequel il y aurait 10% de pièces venues des États-Unis, il y aurait des sanctions, ils ne pourraient pas acheter cet avion-là. Ce n'est pas seulement ne rien acheter en France. Partout où il y a un composant des États-Unis, partout où il y a un actionnaire américain, il y a en particulier le cas, je cite, d'une agence de voyage hollandaise qui organisait des voyages touristiques à Cuba. Cuba est une destination touristique de qualité. Et un beau jour, à la faveur de manipulations ou ça, même pas d'échanges boursiers, des actionnaires américains de cette compagnie hollandaise prennent la majorité. Et de ce jour-là, cette agence se voit interdire de vendre des billets pour aller visiter Cuba. C'est ça la vie quotidienne depuis 1962 d'un gouvernement cubain ordinaire, qui ne fait rien de mal, qui n'a jamais fait de mal aux États-Unis, qui veut vivre tranquille et on veut l'empêcher de vivre. Lui, le gouvernement, bien sûr, et puis les 10 millions de Cubains qui vont avec. Voilà, ce crime contre l'humanité, puisque je considère que c'est un crime contre l'humanité, connu du monde entier, est condamné tous les ans par l'Assemblée générale des Nations unies, mais ça ne fait aucun effet, puisque vous savez que les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas obligatoires, leur application n'est pas obligatoire.
Et donc,
je considère qu'il s'agit d'une insulte à la civilisation humaine, c'est-à-dire un pays de 340 millions d'habitants a décidé d'en finir avec un petit voisin qui ne lui veut aucun mal, qui ne lui a jamais rien fait de mal. Ils veulent se débarrasser d'eux. Voilà, c'est tout à fait clair. Bon, donc pour parler de cette histoire d'embargo et de blocus, il s'est créé sur Marseille un cercle de solidarité avec Cuba, c'est-à-dire un rassemblement d'individus, au nombre desquels je me compte d'ailleurs, qui ont décidé de donner un peu de leur temps militant pour organiser des actions d'information sur cet embargo et sur ce blocus. Et donc la prochaine initiative de ce cercle Cuba Solidarité aura lieu jeudi 3 novembre à 17h à la Cité des Associations. C'est au 93 La Canebière, dans le Marseille, le premier, vous le savez tous. Et ça sera l'occasion d'accueillir un journaliste écrivain qui s'appelle Victor Dédage, qui a publié, c'est il n'y a pas si longtemps, donc en 2000, un livre qui s'appelle Cuba sous embargo, qui mérite d'être lu. C'est une lecture assez facile, mais c'est une série de rencontres avec avec des gens de la base, j'allais dire, des écrivains, des psychiatres, des paysans qu'il a rencontrés au cours de voyage à Cuba et qui expliquent ce que c'est pour eux concrètement que l'embargo et le blocus. Pourquoi on n'a pas ceci? Pourquoi on n'a pas cela? Pourquoi, dit l'un, mon fils qui est diabétique ne peut plus avoir de l'insuline? C'est-à-dire qu'il est condamné à mourir faute de traitement. Hein, parce que l'insuline, c'est fabriqué sous brevet par un laboratoire des États-Unis. Voilà. C'est ça, la vie quotidienne depuis 1962 à Cuba.
Bon. Et ce n'est pas le seul pays?
Non. Alors, voilà. Donc ça, ça aura lieu, je le confirme, donc jeudi 3 novembre à 17h à la Maison des Associations. Victor Dédage, d'ailleurs, n'est pas à son premier livre sur Cuba, puisqu'il avait écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle « Cuba est une île ». Il en a écrit un autre qui s'intitule « Les États-Unis de mal empire ». Hein, puisqu'il faut bien voir d'où ça vient, ce blocus et cet embargo. Hein. Et il en a écrit un autre qui n'a pas un rapport direct avec le sujet, mais sur lequel je m'arrête, c'est « Julien Assange parle », puisqu'il faut savoir que Victor Dédage est un des très rares journalistes français à avoir poursuivi une action en faveur de la libération de Julien Assange en disant « Il n'a commis aucun crime, il a dénoncé des criminels ». Et c'est de ça qu'il est puni. Hein, puisque vous savez qu'il est en très mauvaise santé, il est dans un quartier de haute sécurité dans une prison britannique, il risque d'être extradé aux États-Unis à la demande du gouvernement des États-Unis, et là, il finira ses jours en prison, et même peut-être ils l'achèveront un peu plus vite pour pas qu'il souffre trop longtemps. Voilà.
Heureusement que le Premier ministre anglaise, qui est extrémiste, voilà. Elle n'est pas là.
Voilà. Alors bon, j'en ai parlé, et c'était bien que vous notiez cette date, donc je répète, c'est le 3 novembre à 17h à la Maison des Associations, et Victor Dédage est probablement au nombre des journalistes français, celui qui connaît le mieux Cuba, j'y ajoute Maurice Lemoine qui a fait la préface du livre, mais vous avez là le personnage le plus intéressant, le mieux informé, ayant le plus de contacts réguliers avec Cuba, et ayant fait beaucoup de voyages sur place. Ça c'est très très important de le savoir. Et puisque Habib m'invite... On va parler un petit peu de Madame l'ex-premier ministre britannique qui avait annoncé d'abord qu'elle allait utiliser l'arme atomique.
Ensuite, elle a eu peur, elle devait gifler.
Oui, elle devait gifler Vladimir Poutine au sommet du G20 à Bali. Et puis finalement, elle n'a pas eu le temps. Elle a retenu sa gifle, elle n'a pas jeté la bombe atomique. Bon, mais peut-être on l'a arrêtée au dernier moment. Hein, au dernier moment où elle était en train de préparer à appuyer sur le bouton. Ça y est, c'est parti. Mais alors là, c'est une grande victoire pour la démocratie britannique. Nous avons enfin, à la tête du cabinet britannique, puisqu'il y a toujours un roi à la tête du pays, à la tête un milliardaire d'origine indienne, de confession hindoue, c'est un hindouiste, qui est le plus jeune Premier ministre de Grande-Bretagne depuis dans l'histoire des Premiers ministres, et le plus riche de tous les Premiers ministres de Grande-Bretagne ayant jamais exercé. Voilà. Alors on va vous dire, regardez comme il est joli, sympathique, comme il présente bien, il a fait des études de philosophie à Oxford comme un grand bourgeois britannique.
Mais ce qu'ils veulent qu'on retienne, c'est que c'est le premier Premier ministre non blanc.
Voilà, de couleur. Alors c'est très joli. Alors ça c'est un peu un remake de la politique de présentation de Obama. Regardez, forcément comme il est de couleur, il est gentil. Hein. Ah, bien entendu, c'est classique. Hein. Ben là, il est de couleur, il est simplement milliardaire. Il n'a pas tout à fait. Il a quelque chose comme 900 millions d'euros en portefeuille. Un détail. On n'est pas à 100 millions près.
Mais c'est millions et c'est milliards. Ils n'ont pas des couleurs.
Et voilà, c'est... Comme, exactement. Alors l'argent, non seulement, chacun le sait, n'a pas d'odeur, mais non plus n'a pas de couleur. Hein. C'est-à-dire un milliardaire black, un milliardaire indien, c'est pareil, ça résonne pareil, ça résonne argent. Hein. Et l'argent n'a pas de couleur. Si la couleur de l'or, quelquefois, il y en a qui aiment cette couleur-là, plus que d'autres. Mais simplement, quelquefois, la couleur des comptes sur lesquels on a de l'argent placé aux Bahamas, aux îles Vierges, j'en passe et des meilleurs. Voilà. J'en dirai pas. Si, encore un mot quand même sur la situation de la Grande-Bretagne. Il faut voir que le paradoxe de l'arrivée donc, du plus riche de tous les premiers ministres de l'histoire de la Grande-Bretagne se fait au moment où l'économie de la Grande-Bretagne est dans l'état le plus calamiteux. Hein. Donc on a un monsieur qui dit ben, « Moi, tout va bien pour moi, et pour vous, ben, je suis désolé, mais je n'ai pas grand-chose à vous mettre dans votre écuelle. Hein. » Mais c'est comme ça que fonctionne la démocratie britannique. Alors on peut espérer, alors je ne sais pas si lui va tenir plus de 6 semaines, plus que Mme Truss, on pouvait espérer qu'il y ait un bon geste des conservateurs britanniques disant « Finalement, d'une mauvaise équipe, l'équipe Truss à une équipe qui est un peu pas trop présentable d'un monsieur milliardaire et tout, si on faisait des élections. Eh bien, ils n'ont même pas eu cette idée-là parce qu'apparemment, la place est bonne hein, et on change d'acteur, mais on y est bien.
Oui. Il avait suffisamment de gens qui le soutenaient aussi, non ?
Ah, il a eu la totalité, voilà. La quasi-totalité des élus conservateurs. Il y a eu un petit débat avec un autre. Johnson a fait figure de se représenter et puis il a abandonné tout de suite sans donner d'explication. On a dû lui dire de se taire et puis voilà, qu'ils avaient déjà donné et qu'on avait une nouvelle campagne de promotion. Enfin, le Premier ministre non blanc, ouf ! On est sauvé, on est du tiers-monde, hein, simplement on est l'ancienne puissance coloniale, on a du sang sur les mains, du sang africain, du sang d'Amérique latine, mais on a un Premier ministre coloré. Ah ben c'est très bon. Voilà. C'est Benetton, hein, c'est ça. United Colors of Benetton of UK. Hein, ça fait à peu près ça. Bon. On est en pleine com. Bon. Bien. Allez, arrêtons d'ironiser, c'est presque, j'allais dire, trop fort. Trop facile d'ironiser sur ces, je ne peux pas dire sur ces personnages. Bon. Alors, puisque j'ai évoqué un peu les personnages de couleur, on va dire un petit mot, je pensais le faire. Le monsieur Guterres, vous savez, qui est le secrétaire général de l'ONU, a mis au point, c'est pas tout de suite, mais c'était l'année dernière, à la fin de l'année dernière, un panel Sahel indépendant. Pour l'ONU. C'est-à-dire, il s'est fait conseiller en disant, manifestement, il a compris, après les claques qu'a pris la France, après l'arrivée de Wagner et des Russes, après les investissements chinois, il s'est dit, il faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Et sous-entendu, ça parce qu'il n'ose pas le dire, M. Guterres, il faut que nous organisions pour défendre les intérêts occidentaux sur le continent. Mmh. C'est ça le but de la main. Mais comme il n'a pas beaucoup de relais, que ses appuis traditionnels, donc là, la France-Afrique et les autres, ne sont pas très très bons et sont plutôt mal vus sur place, il a essayé de se fabriquer un panel, donc un groupe de gens qu'il a choisi, qui vont lui donner les bonnes informations, si tant est qu'ils en soient capables, pour lui dire comment faire dans ce Sahel décidément compliqué. Donc il a réuni sous la présidence de l'ancien président du Niger, M. Issoufou, un groupe de gens, donc des Rwandais, des Congolais, etc., qui ont tous occupé des fonctions officielles, qui vont lui donner un peu des lumières sur ce qui se passe dans le Sahel. Alors, j'insiste, c'est pas simplement les anciennes colonies françaises, puisqu'on va en gros depuis le Sénégal jusqu'au Soudan, c'est-à-dire on traverse la totalité du continent africain.
L'Afrique équatoriale.
Oui, oui, y compris avec le Congo, oui. Voilà. Donc c'est très ambitieux, il y a une quinzaine d'États qui ont... Ce n'est pas des représentants des États, d'ailleurs, c'est des gens qui ont des compétences, des connaissances, qui ont exercé des fonctions officielles, etc., qui vont donc éclairer les choix de M. Guterres. Ceci étant, ça ne fait que confirmer le fait que ce monsieur est dans l'incapacité de trouver des mesures qui sauvegardent les intérêts occidentaux, car c'est de ça qu'il jasit, et de rien d'autre. Hein. N'en parlons plus, ça ne mérite même pas d'être plus développé.
C'est juste un groupe de plus.
C'est juste un groupe de plus, alors des gens qui voilà, ont des voyages payés.
Avec les mêmes.
Voilà, payés à
ONU,
New York régulièrement.
Union africaine, CDAO.
Voilà, c'est, voilà, toujours les mêmes et toujours donc sélectionnés sur ce profil-là, essayer de sauver les intérêts occidentaux en Afrique qui sont effectivement menacés. Mais voilà, il y a peut-être des raisons valables pour que ces intérêts soient menacés. Ou est-ce que ces intérêts n'ont pas été trop strictement économiques, c'est-à-dire je fais suer la bête, on a dit ça, je fais suer le burnous, etc., j'empoche. Je prends les matières premières et je m'en vais avec la richesse des autres. Bon. Puisqu'on est dans cette région-là du pays, je voulais saluer un écrit d'un de nos amis qu'on n'avait pas lu depuis longtemps, qui s'appelle Robert Charvin. Alors Robert Charvin, il faut savoir que c'est un professeur de droit constitutionnel qui a été donc président de l'université de Nice à une certaine époque, qui a été militant communiste, je ne sais pas s'il est encore au parti, mais il a été militant communiste, et qui a fait un petit écrit récent qui s'appelle « La solitude libyenne ». Que vous pouvez retrouver sur le net. Alors il est intéressant parce que d'une part, Robert Charvin a eu à pratiquer Kadhafi, du temps où Kadhafi était vivant, Kadhafi qui l'avait aidé, enfin avait aidé une revue qui avait été fondée par Robert Charvin pour parler différemment de l'intérêt des pays africains et des politiques de différents gouvernements africains, dont, entre autres, le gouvernement libyen. Mais il n'était pas à la solde de Kadhafi, simplement Kadhafi lui donnait des moyens de faire un travail d'information, une espèce de vue du sud sur le nord, appelons ça pour faire simple. Bon. Ce qu'il a fait, et donc il avait publié une revue... Robert Charvin, oui, C-H-A-R-V-I-N, Robert Charvin. qui écrit de temps en temps sur le site Investigaction, mais c'est pas là que j'ai trouvé ce papier. Alors ce que dit Charvin, je vais pas lire tout son papier, qui est bref, qui tient sur une page, mais qui dit que l'intéressant dans la situation libyenne, c'est pas qu'elle sorte politiquement, on a vu la semaine dernière qu'on n'y était pas tout à fait, mais que les procès qui ont été lancés en France contre les responsables français de l'assassinat de la Libye et de l'assassinat de son président, les procès progressent. Après qu'ils aient connu des ralentissements considérables. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ressortent avec 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, il y a des dossiers qui ressortent et qui commencent à progresser dans les arcanes de la justice française. Et là, il y a des gens qui sont très, très mouillés, à commencer par un président de la République et à divers intervenants, des entre-deux, des gens des coulisses qui étaient intéressés par le naufrage de la Libye. Alors tout ça, c'est très important, parce que si ces dossiers-là sortent et aboutissent, on aura effectivement la preuve. Alors on a évidemment des doutes, on savait en gros ce qui s'était passé, mais on aura la preuve qu'effectivement, la France a joué un rôle tout à fait important dans le renversement du gouvernement et du régime libyen.
Responsable du crime.
Voilà, et en plus, y compris dans l'assassinat in fine de Muammar Kadhafi lui-même. Bon. Ah. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais le fait que ça ressorte petit à petit, c'est une preuve qu'il faut encore faire confiance à la justice française, même si elle est très très lente. Alors, j'allais dire, il faut souvent que la justice soit trop maltraitée par le pouvoir politique pour que tout d'un coup, elle se mette à dire « mais ça suffit ». C'est peut-être ça. Je pense que l'arrivée de M. Dupond-Moretti, avocat à la tête du ministère de la Justice, a dû donner un peu des fourmillements dans les jambes et dans les dossiers à plusieurs magistrats qui disent « mais c'est pas avec un ministre de la justice, pareil, qu'on va s'arrêter de chercher ce qu'on va trouver, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver beaucoup de choses intéressantes. Mmh. Et M. Sarkozy a peut-être du souci à se faire. Alors, je ne sais pas, il n'a plus de carrière derrière lui, mais il a peut-être du souci à se faire, parce que, outre le renversement du gouvernement libyen, il y a, et l'assassinat de Muammar Kadhafi, il y a aussi un secret qui est toujours gardé, effectivement, sur où est l'or de la Libye. Où est l'or de la Libye, qui a disparu, qui s'est envolé, certainement pas en fumée pour tout le monde, au moment donc, des derniers jours du régime Kadhafi, et dont on ignore tout, de la destination. Outre le gel, alors ça c'était plus facile, c'est encore plus facile à trouver, le gel des avoirs libyens dans des banques, là il y a un numéro de compte, il y a une somme, c'est bien. Mais le stock d'or, c'est du matériel, ça peut partir dans un camion, dans un avion, ça peut aller n'importe où. Et il y a un petit nombre de gens qui savent.
Comme en Tunisie.
Voilà. Et ce stock d'or avait un intérêt qui n'était pas que l'intérêt pour les finances de la République, de la Jamaria libyenne. C'était le fait que ce stock d'or avait été annoncé par Muammar Kadhafi comme servant de stock d'or initial à la future Banque centrale africaine indépendante.
Exact.
Et c'est bien pour ça, hein, je tire les conclusions, mais c'est bien pour ça qu'il a disparu. Car ça rendait, et ça rend toujours, ça a rendu impossible la constitution d'une banque centrale africaine qui n'ait pas besoin d'aller pleurer au FMI, à la banque centrale d'Angleterre, à la Fed, à New York, etc.
Et de ne plus avoir référence sur le dollar.
Et en plus, voilà, d'avoir une monnaie gagée sur un stock d'or, parce que ça continue, ça existe toujours les stocks d'or.
Hein.
Ne croyez pas que ça a disparu. Vous pouvez avoir un Napoléon chez vous que vous a laissé votre grand-mère. Mais les stocks d'or, il y en a dans toutes les grosses banques centrales. Parce que quand, à un moment où le papier devient un peu fiable, où la monnaie fond, comme on dit, à ce moment-là, le fait d'avoir de l'or, c'est dire ben, j'ai quand même une vraie richesse dans mon coffre et ma monnaie, elle est gagée là-dessus. Et donc, cette monnaie-là n'a pas vu le jour et le renversement et l'assassinat de Kadhafi ont permis qu'elle ne voit pas le jour. Alors que c'est un besoin évident pour ce continent de 1,5 milliard de personnes. Bien. Ça, c'était utile de le rappeler et puis de saluer donc, cet article de
on
Robert Charvin.
Saddam Hussein, hein, il a voulu changer le pétrodollar, si vous vous rappelez.
Oui.
Et la monnaie irakienne.
Irakienne, tout
ouais,
à fait.
Ouais, oui, c'était le même truc. Ils l'ont assassiné aussi. Ils l'ont tué.
Oui,
c'est un peu le même principe.
Tout à fait. Ouais. Ben, c'est-à-dire il est interdit d'être indépendant,
exactement.
Quels que soient vos moyens financiers. Alors, à propos, on parle de pays arabes. À propos de pays arabes, il se passe quelque chose d'assez étonnant et un peu surprenant pour nous.
Ouais.
C'est que l'Arabie saoudite a confirmé son intérêt pour une candidature aux BRICS. Et elle l'a fait, non pas comme ça par un communiqué de presse, mais elle l'a fait à l'occasion d'une visite donc à Riyad du président sud-africain Ramaphosa. Donc l'Afrique du Sud, vous le savez, donc, est membre du BRICS. Pas dans les fondateurs, elle s'est venue, ça a été la cinquième qui est venue après les quatre premiers. Mais donc, pour que ça se dise et que ça se confirme par écrit après la visite de M. Ramaphosa à Riyad, ça veut dire qu'effectivement, l'Arabie saoudite a considéré qu'elle pouvait le faire, que c'était le moment et qu'elle prenait le risque politique vis-à-vis de son tuteur, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, de dire maintenant, je travaille avec d'autres et c'est comme ça. Ça, c'est en soi un événement.
Donc, excusez-moi, mais moi, je suis pas très, je connais pas très bien l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on peut avoir confiance en eux et est-ce que le BRICS va les accepter, va accepter la candidature ?
Alors, on ne rentre pas dans les BRICS comme ça, en frappant à la porte et en faisant. Hein. Alors, il y a quelques candidatures qui sont bien avancées et qui sont examinées. Je pense en particulier à la candidature de l'Iran. Là, c'est tout à fait clair. Il y en a d'autres qui ont surgi ces derniers temps. La Turquie, l'Algérie, hein, où là, effectivement, il y aura un processus. Il faut que les cinq autres soient d'accord pour les laisser rentrer.
Ce qui est bien, c'est que l'Arabie saoudite a changé un petit peu...
C'est une réorientation de sa politique.
Une autre orientation, ouais.
Alors, l'appartenance, soyons bien clairs, l'appartenance au BRICS, ça lave pas les mains de tous les crimes commis par les uns ou par les autres.
Hein. Non, je dis
pas non plus que le régime sud-africain est au-dessus de toute critique. C'est pas ça du tout. Je dis pas non plus que le régime de Bolsonaro, en souhaitant que c'est sa dernière semaine, mais je ne sais pas, je ne dis pas que le régime de Bolsonaro est au-dessus de toute critique. Hein. Mais simplement, c'est un accord économique de coopération entre États qui ne veulent plus être dépendants d'un seul centre de décision mondiale, qui ne veulent plus dépendre que des financements du FMI et de la Banque mondiale, et qui décident de s'organiser pour travailler ensemble. C'est pas un brevet de démocratie, de progressisme et tout. Ne mélangeons pas les choses. C'est un pas dans la multipolarité, c'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même que l'Arabie saoudite est rentrée officiellement dans le giron des États-Unis d'Amérique à l'occasion d'une visite, c'était en 1943, je crois, de Roosevelt sur un porte-avions qui était venu donc dans la mer Rouge et qui avait accueilli le roi Saoud à l'époque.
Hein, ouais.
Et ça s'était noué à ce moment-là. Donc c'est une alliance qui a pratiquement 80 ans. Et qui ne s'était jamais démenti. Là, effectivement, on a un changement de regard qui correspond à une lecture différente de l'état réel de l'économie mondiale et des rapports de force politique. C'est tout. C'est parce qu'effectivement, pour l'Arabie saoudite, être dépendante et soumise aux États-Unis, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Alors les États-Unis, bien sûr, leur fournissent énormément de matériel militaire, qui leur vendent d'ailleurs très cher. Hein, mais s'ils cherchaient ailleurs, ils trouveraient. Et puis maintenant, je pense qu'ils ont suffisamment de quoi...
du matériel, vraiment...
Ah oui, ils ont du matériel de pointe et tout. Hein, je pense qu'on ne leur fait pas beaucoup de ristournes sur les prix, puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Hein, donc voilà. Le marché mondial des armes est hélas très, très ouvert. Et donc ils trouveront autre chose si nécessaire. Mais je voulais noter ce phénomène qui touche particulièrement le monde arabe. Bien.
Les drones iraniens.
Alors les drones iraniens. Ah ben voilà, Habib me présente des. Alors les drones iraniens. Alors les drones iraniens. Il faut savoir que. Alors j'insiste parce que ils n'ont jamais arrêté de le dire et on n'a jamais plus prouvé le contraire qu'ils étaient en train de fabriquer l'arme atomique. Bon, ils disent on ne la fabrique pas, on envoie autant que possible et chaque fois que c'est possible les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ils ne trouvent rien dans les installations nucléaires, civiles et de recherche de la République islamique. Donc ils ne trouvent pas. Et donc les Iraniens continuent à dire « Nous ne cherchons pas à avoir l'arme atomique. » Point à la ligne. Par contre, comme on sait que certains pays voisins ne nous aiment pas, on organise notre défense. Et il faut avouer qu'ils ont fait des progrès considérables en matière de drones et de missiles.
Ouais. Hein?
Alors les drones, ça n'a rien de nucléaire. Les missiles, ça peut porter des bombes atomiques, mais ça peut porter des tas d'autres choses. Donc ils sont très très pointus, au point qu'effectivement, la Russie récemment leur a acheté des drones pour aider dans la campagne d'Ukraine. Bon. Alors on dit, c'est pas bien. De toute façon, il n'y a qu'à regarder le nombre de drones qu'il y a de l'autre côté pour arrêter de ce genre de considération. Et puisqu'on en est à parler de l'Agence internationale de l'énergie atomique, je vais vous raconter la dernière farce de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour montrer à quel point cette institution est fragile politiquement. Alors elle est techniquement très capable, figurent en son sein donc des experts de très haut niveau de l'industrie nucléaire, civile ou militaire, à qui on ne peut rien cacher et qui comprennent tout, mais elle est politiquement dépendante du pouvoir central des États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? C'est tout simple. La fameuse AIEA avait organisé, et organise cette semaine, en fin de semaine à Washington, un colloque qui porte comme ce thème l'ingénierie de l'industrie nucléaire au XXIe siècle. Hein? Donc tout ce qui est processus industriel relatif à l'énergie nucléaire et à tous les usages du nucléaire. Eh bien, la délégation russe n'aura pas de visa pour s'y rendre. Voilà. Parce que c'est aux États-Unis et que donc ils sont persona non grata, ils sont dangereux probablement. Alors, bien sûr, on sait que les Russes ne connaissent rien à l'atome et au nucléaire, ils sont nuls, ils sont sans intérêt comme experts, donc on ne les veut pas. Mais voilà, donc ça fait partie de la comédie.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est que les Russes, ils sont en principe sur l'arme atomique le plus important dans le monde.
Mais oui.
Alors qu'on ne les invite pas, c'est fou.
Mais bien sûr. Alors là, ce n'était pas que militaire, c'était l'industrie nucléaire pour le 21e siècle. Voilà. Mais en fait, la faute, je pense, mais c'est une faute qui a été, je pense, provoquée. C'est-à-dire que le fait d'organiser cette conférence à Washington, c'était un risque pris par l'Institut international de l'énergie atomique. Mm-hmm. Hein, parce qu'ils savaient bien que ce risque de visa, il est constant. Ça se passe tous les ans pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a toujours ce genre de comédie qui est pratiquée. Bon, ils auraient organisé ça tranquillement à leur siège à Vienne, où il n'y a jamais de problème. Ils auraient eu tous les gens qu'ils voulaient avoir. Là, ils ont été piégés, je pense. Ou ils ont voulu faire plaisir à Bling. Je ne sais pas. Peut-être. C'est peut-être possible que ce soit comme ça. Le résultat est là. C'est le ridicule. C'est le ridicule. C'est-à-dire que les scientifiques les plus compétents en cette matière de la Russie, qui sont parmi les plus pointu du monde, on ne les veut pas. Voilà.
Bon. Et la Chine?
Oui, la Chine a été invitée. La Chine a été invitée. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà. Puisque je suis à Washington, j'y reste deux secondes pour dire qu'effectivement, donc, c'est la semaine prochaine qu'auront lieu les élections donc, pour le renouvellement d'une partie du Sénat et de la Chambre des représentants et d'un certain nombre d'autres postes, puisque vous savez qu'à cette occasion, il y a des changements de gouverneurs, de shérifs, etc. etc. C'est très très lourd, une période électorale aux États-Unis. Et surtout, j'allais dire à la limite, mais vous allez dire que c'est une opinion un peu facile, il y a trop d'élections aux États-Unis. On passe d'une élection à l'autre. Ils sont toujours en campagne électorale et ils sont toujours, comme les campagnes coûtent cher, à aller tirer des milliers de dollars chez les uns, chez les autres. Alors, quand je dis chez les uns, chez les autres, c'est pas chez les uns, chez les autres. Un candidat à des élections qui veut des centaines de millions de dollars pour faire une campagne, il va pas les demander à la ménagère du coin de son bloc. Donc, il va à l'endroit où sont ces millions de dollars, évidemment. Et donc, le résultat, c'est que les élus, dans leur grande majorité, dépendent des financements qu'ils ont reçus. Et donc, on n'a pas affaire à une démocratie.
C'est des milliardaires. Alors.
Voilà. On a affaire à une plutocratie. Alors, plutocratie, terme grec. Hein, plutos, c'est le riche. Cratie, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement des riches, puisqu'il faut de l'argent pour arriver au pouvoir. Bon, c'est tout simple. Bon. Et donc, il y a apparemment des inquiétudes qui se font jour sur le résultat des élections de la semaine prochaine, au point qu'il est même envisagé, alors c'est un peu avec des trans, hein, mais il est même envisagé que les Républicains reprennent la majorité à la Chambre des représentants. Comme au Sénat, déjà, on était à 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs indépendants, 50 sénateurs démocrates, que ça risque de basculer, il suffit qu'il y en ait un basculement d'une voix et ça change la majorité. Oui. Effectivement, la famille Biden et les alliés de la famille Biden ont de quoi s'inquiéter. Ils sont inquiets. Ils sont d'autant plus inquiets que dans les candidats donc, au poste de sénateur et des candidats donc, républicains dans les différents États de l'Union, il y a beaucoup de Trumpistes. Parce que là aussi, c'est une complication supplémentaire, c'est que le Parti républicain n'est pas encore organisé sous la totale domination de Trump, mais cette domination a beaucoup, beaucoup progressé. Et donc, effectivement, une bonne majorité des candidats à la Chambre des représentants républicains sont des Trumpistes. Et alors là, ce n'est pas une inquiétude, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête, les démocrates. Hein. Bon. Et alors, pour plusieurs raisons. Hein, mais il y en a une aussi qui leur fait dresser un peu plus les cheveux sur la tête, qui est que sur la question de la guerre d'Ukraine, Trump manifeste des doutes en disant « Mais est-ce que c'est bon de continuer comme ça ? Où va-t-on ?» Hein, pas plus.
Ça, hein. Ouais.
Et donc, panique générale dans les rangs démocrates, si Trump fait campagne et que ses élus majoritairement à la Chambre des représentants arrivent en tenant ce genre de propos, alors ils tiennent un propos. Alors, je le redis, parce que c'est pas seulement dire « on fait plaisir à Poutine », ça c'est une caricature pour la presse occidentale. Ouais. C'est dire « attendez, le pays est en difficulté, il y a des taux de chômage assez importants, il y a des taux, on sait, l'espérance de vie diminue, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de drogués, etc. Et nos infrastructures, les routes, les ponts, les autoroutes, les chemins de fer et tout, sont délabrés. Et donc, il y a le citoyen de base des États-Unis peut dire, mais plutôt que d'envoyer encore, c'est prévu, mais on attendra la semaine prochaine d'envoyer encore 50 milliards de dollars à Zelensky, on peut dire, dites, il y a quand même du travail à faire sur place, pourquoi ne pas le faire? Et ça, comment vous voulez répondre à ce genre de discours, hein? Bref. Un discours qu'on peut entendre, qui a du sens, pour le citoyen américain de base, qui dit, moi je comprends pas que... Et ça n'arrête pas. Tous les mois, pratiquement depuis le mois de février, le Congrès des États-Unis envoie des milliards en Ukraine. Bon. Et donc le citoyen peut se dire, bon, est-ce que c'est la meilleure dépense? Alors, que vous soyez bien copain, que Poutine soit méchant, c'est bien possible, mais en attendant, faites quelque chose ici, aux États-Unis. Vous êtes quand même le gouvernement des États-Unis, vous n'êtes pas le gouvernement de la planète. Alors tout ça passe mal, mais on voit bien que la situation de l'hégémon, comme on dit, de la puissance dominante, pose problème, y compris pour ses propres citoyens. Ses propres citoyens qui, malgré tout, ont des possibilités d'intervention limitées, vous savez, puisque le règne de l'argent est tel qu'ils peuvent s'exprimer de temps en temps. De temps en temps, c'est dangereux de s'exprimer, d'ailleurs, on peut mourir. Enfin bon, c'est compliqué, les États-Unis. Hein. Et donc, je m'arrête là-dessus parce que c'est assez difficile, quand on lit la presse bien pensante française et européenne, de dire les États-Unis ne sont pas un modèle politique. Les États-Unis sont comme ils sont, ils jouent un rôle important sur la planète, eux, leur monnaie, leur armée et tout. Mais de là à dire qu'on doit faire exactement pareil, c'est un raisonnement qui me paraît difficile à accepter. Bon, pas plus, hein. Mais ils décident de vivre comme ça, ça leur convient, ils n'ont pas renversé leur régime, ils n'ont pas changé leurs conditions. C'est leur problème, mais ce n'est pas le nôtre. Hein. Et quand des citoyens des États-Unis disent « nous, on aimerait vivre autrement et on aimerait qu'il y ait quand même un peu d'argent pour les routes et les hôpitaux », pas les hôpitaux publics, j'entends, bien sûr, pas les autres. La médecine chère aux États-Unis, il y a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. De ce point de vue-là, on peut dire « ils sont en pointe, ils ont des prix Nobel de médecine, ils ont des prix Nobel de chimie, etc. » Il n'y a pas de problème. Seulement, tout le monde n'y a pas accès. Bon, c'est ça le problème. D'égalité entre les citoyens. C'est un problème qui n'est pas posé aux États-Unis, où il n'y a qu'une seule valeur, c'est la liberté. Et donc l'égalité, on ne sait pas ce que c'est. La fraternité, pas trop, parce qu'il n'y a qu'à se souvenir de Luther King et de quelques autres. La religion. Ça y est pas. Bon, c'est tout.
Non, mais il faut qu'ils changent le nom de leur parti, hein, démocrate.
Mais oui.
Plutocrate ?
Oui, plutocrate. Oui, ils porteraient les deux portraient le même. On ne sait pas.
Il n'y a que deux partis politiques.
Oui, je sais, mais bon. Oui.
Alors, il y en a quelques autres, mais qui ne peuvent pas arriver. De temps en temps, il y a un dissident, il y a un troisième candidat au présidentiel qui fait quelques voix ou qui met sa fortune personnelle sur la table et qui arrive à faire quelques voix. On a eu des cas, mais jamais au point d'arriver au deuxième tour. Donc, voilà. Bon, n'en parlons plus de ce point de vue-là.
Capitaliste.
Alors, puisque je suis aux États-Unis, j'y reste un petit peu. Et on va en parler évidemment de l'Ukraine, puisque c'est le sujet le plus important de l'ordre du jour. Il se passe la question de ce qu'on appelle la bombe sale.
Oui.
Bombe sale. Alors c'est une affaire de cette semaine. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe sale? Alors vous allez dire, c'est ridicule comme appellation. Toutes les bombes sont sales.
Elle a un peu de poussière sur la bombe.
C'est destiné à tuer. Bon, non, la bombe sale est une bombe nucléaire, entre guillemets, pas tout à fait nucléaire, mais un peu nucléaire, oui, c'est toujours sale. Hein. C'est un explosif classique qui peut être de la dynamite, du TNT, tout ce qu'on veut, un explosif classique.
C'est un mélange,
qu'on
d'ailleurs.
Enrobe dans une poche de déchets radioactifs, donc de particules radioactives qui sont elles-mêmes toxiques et éventuellement mortelles, et on envoie tout ça avec un canon, où on fait jeter ça par un avion, donc on a une bombe, mais en plus de faire son effet de bombe, c'est-à-dire de détruire à l'endroit de l'impact, elle va disséminer dans la nature, et pourquoi pas sur des milliers de kilomètres, les particules radioactives qu'on y a ajoutées. C'est ça la bombe, ça.
Et tuer des êtres humains.
Voilà, qui vont être irradiés avec des doses fortes de ci ou de ça. Bon, pas de soucis. Bon, on sait ce que c'est. Le concept est connu depuis longtemps. Oh. Il a été utilisé par différents stratèges ou pour faire peur en disant « Oui, mais tel pays peut avoir une bombe sale. Il n'a pas de bombe propre, mais il a une bombe sale. » C'est jamais allé très très loin. Mais c'est techniquement possible, c'est techniquement faisable.
Oui.
Alors pour répartir des particules radioactives autour d'une charge non radioactive, il faut les avoir. Donc, or, il se trouve que l'Ukraine en a. Pourquoi l'Ukraine, elle en a? Parce qu'elle a des centrales nucléaires sur son sol. Il n'y a pas que celle de Zaporoïe dont on parle. Il y en a plusieurs autres. Elle a eu les centrales de Tchernobyl. Et on sait que l'Ukraine dispose de matériaux radioactifs qui ne lui permettent pas pour l'instant de faire une vraie bombe atomique, mais qui pourraient techniquement lui permettre de fabriquer une bombe sale. Alors on n'en parlait pas, et puis tout d'un coup le sujet ressort parce que c'est la Russie elle-même qui dit « attention, on sait qu'ils s'intéressent à l'arme atomique, alors ils ne sont pas en capacité aujourd'hui, s'ils ne sont pas aidés, c'est bien clair, s'ils ne sont pas aidés de faire une vraie bombe atomique, et normalement l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait les en empêcher, puisqu'elle a les moyens d'aller voir dans leurs installations, par contre ils pourraient très bien faire une bombe sale ». C'est tellement vrai que c'est le ministre de la Défense russe qui a pris son téléphone.
Ouais.
Il a pris son téléphone et il a appelé les ministres des Affaires étrangères ou de la Défense, je crois. Non, c'est le ministre de la Défense, c'est Austin. Ouais. Le ministre de la Défense d'Étonie, le ministre de la Défense français, M. Lecornu, le ministre de la Défense britannique, dont je ne sais pas le nom, ça n'a pas beaucoup d'importance, pour leur dire « Attention, voilà ce qui est en train de préparer l'équipe Zelensky, c'est-à-dire une bombe sale ». Une bombe sale destinée, alors qui peut être envoyée sur n'importe qui, sur la Pologne, sur la Roumanie, peut-être sur la Russie, pourquoi pas, puisque c'est l'ennemi du jour, mais de toute façon, qui ferait ces effets-là, dispersion de particules radioactives sur une vaste surface. On parle d'une zone de diffusion d'un millier de kilomètres de large, ce qui n'est pas tout à fait rien quand même, c'est pas simplement un impact local. Bon. Alors, il y a de quoi augmenter le climat de peur qui est entretenu depuis des semaines, on en a parlé à cette antenne, il y a de quoi entretenir le climat de peur qui est fait autour de l'arme atomique dans la guerre d'Ukraine, sous une autre forme qui est nouvelle, qui est donc la forme guerre sale. Pour que, alors, ce qui se passe, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand M. Shoigu, le ministre de la Défense russe, appelle son homologue américain, M. Austin, il l'a en ligne, on le lui passe, on ne lui dit pas « il est en vacances », on ne lui dit pas « il est en week-end », on lui passe au téléphone, hein, il lui parle, il lui explique et tout. Même chose avec M. Lecornu, ça c'est moins important, hein, mais ça se fait. Donc ça veut dire que quand même il y a une oreille, quelque part dans les puissances occidentales, par rapport à ces affirmations-là. Et il y a d'autant plus d'oreilles que, je crois que c'est cet après-midi, va se tenir une réunion spéciale du Conseil de sécurité à la demande du représentant russe pour dire « ben voilà ce que nous savons sur la préparation de la bombe sale ». Alors les autres vont bien être obligés d'écouter. Alors ils vont dire « tout ça c'est des fariboles, tout ça c'est des mensonges, etc. » Ou bien ils vont être obligés d'aller rendre compte à leurs chefs respectifs en disant « il y a quand même un vrai problème parce que les énervés de Kiev, je les appelle comme ça pour ne pas les appeler les fascistes parce que je suis dans un jour gentil, hein, les énervés de Kiev sont en train d'avoir ce genre d'idée en tête. » Alors c'est pas tous les Ukrainiens, loin s'en faut, c'est les énervés de Kiev, c'est-à-dire le petit noyau qui continue à mener cette politique de jusqu'au boutisme, de « je tire sur tout ce qui bouge, hein, et je déteste les Russes ». C'est ça qu'il y a derrière. C'est donc pas les Ukrainiens dans leur majorité, ce qu'il en reste. Hein, ce qu'il en reste, parce que la fuite des Ukrainiens continue, elle continue d'autant plus que la guerre a pris une nouvelle forme, qui est la guerre sur l'énergie électrique. Alors j'en dis un mot. Alors, je crois que j'ai fini sur la bombe sale, hein, puisque donc ça a été dit, ils ont parlé entre eux. Alors si, j'en ai pas fini, parce que la réplique à ces coups de téléphone de M. Shoigu a été d'une limpidité, écoutez bien. Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis. Vous remarquez qu'il n'y a que trois pays. Il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas l'Italie et tout. Non, non, la France est complètement impliquée dans toutes ces opérations. Et ils disent, la lettre du 24 octobre, donc très précisément d'hier, « Nous, ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, réitérons notre soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression que mène la Russie. Nous restons déterminés à poursuivre notre soutien aux efforts de l'Ukraine pour défendre son territoire aussi longtemps qu'il le faudra. » Alors, j'ai remarqué un ministre de la France qui signe ça. Il n'y a jamais eu le moindre débat parlementaire sur cette question-là. Mmh. Plus tôt ce jour, les ministres de la Défense de nos trois pays se sont entretenus, ils confirment, avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, à sa demande, ce qui est vrai. Nos pays ont clairement indiqué qu'ils regrettent les allégations, à l'évidence fausse, de la Russie selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire. Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade. Nous rejetons plus généralement tout prétexte d'escalade de la part de la Russie. Nous avons également évoqué notre détermination commune à continuer de soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien par une assistance en matière sécuritaire, économique et humanitaire face à la guerre d'agression brutale du président Poutine. Alors, vous voyez, voilà le résumé de toutes les positions. Donc, soutien maintenu. Il est question donc d'envoyer encore des millions de dollars, d'envoyer de l'argent, des armes, etc. On ne veut rien entendre.
Bon, bah, les pauvres n'ont qu'à bien se tenir. Hein. On peut toujours attendre.
On peut toujours attendre. Voilà. Alors, ça, c'est la position officielle. Alors, je souligne quand même, et je ressouligne, la France est totalement impliquée dans ce type de manœuvre, au point que, vous avez même vu, c'est rigolo, c'est cocasse, que l'ancienne épouse de M. François Hollande, qui a totalement trempé dans toutes ces affaires-là, a dit qu'il y en avait assez de s'aligner totalement sur les États-Unis. Mais je ne sais pas mais si Ségolène... Je ne sais pas si Ségolène Royal a beaucoup d'audience aujourd'hui.
Mais... Ségolène Royal aussi.
Oui, elle a été très, très claire. Ouais, alors, elle sait des choses de très vraies, puisqu'elle a vu son ancien époux aux affaires François Hollande, qui ne faisait rien pour appliquer les accords de Minsk, qui étaient totalement impliqués dans cette politique. Alors voilà pour la bombe sale. C'est très intéressant à suivre. C'est-à-dire qu'on continue... Alors c'est là qui est inquiétant, le dispositif psychologique de masse qui est en cours. On ne peut plus utiliser l'idée de la bombe atomique. Enfin, les Russes, c'est clair, ils ont dit, on redit, et puis les Occidentaux ont compris qu'à aucun moment, le gouvernement russe décidera d'utiliser une bombe atomique en premier... sur le territoire des alliés, comme on dit, de ceux dont je viens de parler. Bon, ça, ils ont commencé à admettre cette idée, du coup, ils ont un peu changé de discours, et c'est là qu'on repasse à la bombe sale, puisque la bombe propre, ça paraît pas très, très plausible. Donc, la bombe propre serait une bombe, effectivement, alors, dans la logique de l'opération d'intoxication des masses, j'allais dire, c'est la bombe propre serait... tirée sur la Russie par l'Ukraine, mais on dirait que c'est la Russie qui s'est tirée elle-même sur elle. Ça serait comme dans le cas du viaduc de Kerch, comme les gazoducs, etc. Voilà où on en est de la décomposition du camp occidental. Je voulais ajouter à ça... Oui, Roselyne, ça l'accable, tout ça. Ça l'accable. Bon, alors, je voulais ajouter quand même des choses intéressantes, parce qu'on a parlé aussi de l'alimentation des pays pauvres. Ça revient. Alors ça revient parce qu'effectivement, l'accord qui a été passé en juillet entre l'Ukraine, la Turquie et la Russie vient à échéance à la fin de ce mois. Et donc il est question de le prolonger ou de ne pas le prolonger. Bon. Et donc à cette occasion, Poutine a fait un point sur la situation. Il a dit, ben voilà, on a surveillé, puisque ça a été surveillé d'un commun accord par les Turcs qui regardaient les bateaux passer, etc., qui assistaient même aux opérations de chargement dans les ports ukrainiens, ce que les Russes ne faisaient pas, bien entendu. Et donc, il est dit que sur la totalité du grain exporté, 5% est arrivé dans les pays pauvres.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Donc tout le reste est arrivé dans les pays développés, c'est allé en Corée du Sud, au Japon, et beaucoup, beaucoup en Europe, qui par ailleurs est un producteur de céréales. Bon. Donc le bilan est fait. Et donc, à juste titre, Poutine dit, on se demande si ça vaut la peine de continuer, ou alors il faut le faire dans des conditions de plus sérieuses pour que les intérêts réels des pauvres soient pris en compte. Hein. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, effectivement, on va voir dans les semaines qui viennent s'il y a reconduction de cet accord, ou bien si le bilan est tellement mauvais qu'on arrêtera ce genre de facilité. Il s'ajoute à ça le fait que, et la Russie le met en avant aussi, en disant le fait que les sanctions prises contre la Russie lui empêchent de vendre des engrais, fait que ça complique encore la situation agricole des pays pauvres, parce que s'ils ont du grain en moins et qu'ils ne peuvent pas mettre des engrais en plus pour améliorer leur propre production nationale, ça complique encore l'équation. Donc pour l'instant, et ça c'est une demande de la Russie très claire, ils demandent la levée pour l'envoi dans les pays pauvres de leurs engrais, puisqu'ils en fabriquent des grosses quantités. Tout ça fait partie du même jeu. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, je voulais rajouter que, ouais, à cette histoire, donc, c'est délirant. Cette histoire, oui, je regarde. Cette histoire de bombe, alors ça a donné lieu à un communiqué de la Maison-Blanche qui est assez étrange. Parce que je vous lis la traduction française, je n'ai pas recoupé avec la version anglaise. Mais les États-Unis continuent de confirmer qu'ils ne prendront pas part à la guerre d'Ukraine. Alors, vous pouvez envoyer 50 milliards de dollars une fois par mois, mais vous ne prenez pas part. Vous pouvez envoyer des missiles, en veux-tu, en voilà, mais vous ne prenez pas part. Bon. Mais la phrase qui m'a inquiété, les USA, les États-Unis, ne prendront pas part aux hostilités sur le sol ukrainien. Vous avez bien entendu, ouais. Sur le sol ukrainien. Ça veut dire, alors lisons bien les phrases, alors après les journalistes font cocorico, ils ne vont pas faire la guerre, etc. je ne participe pas aux hostilités sur le sol ukrainien. C'est-à-dire que je n'ai aucun soldat infanterie à pied sur le sol ukrainien, ou dans un char d'assaut, ou dans un véhicule quelconque. Hein. Mais par contre, effectivement, si j'en ai partout, en Roumanie, en Pologne, en Slovaquie, etc., ça, ça compte pas, c'est pas sur le sol ukrainien. Si j'ai des avions et des satellites qui circulent sans arrêt autour du sol ukrainien, c'est pas sur le sol ukrainien. Donc, avec ce genre d'hypocrisie, si vous voulez, qui est dramatique, ça veut dire qu'en fait, la guerre continue, et c'est une guerre qui a lieu entre les États-Unis et la Russie, à telle enseigne que quand M. Shoigu prend son téléphone, il a directement affaire à M. Austin, ministre de la Défense des États-Unis. Il n'a pas affaire au général commandant la zone polonaise ou un général installé en Roumanie avec des unités américaines. Il a affaire au chef de la défense de la première puissance militaire mondiale. Et on le lui passe et il se parle, même si l'autre après dit « je considère ses propos comme sans intérêt ». Il l'a pris au téléphone, il l'a écouté. Et après, vous pouvez être certain que ce que M. Shoigu a dit, ça a été enregistré, c'est décortiqué à la loupe, à la virgule près, pour savoir exactement ce qu'il a dit. Et M. Shoigu est un poste où on fait attention à la virgule près à ce qu'on dit. Surtout dans des circonstances telles que nous les vivons. Vous l'imaginez. Et puis je voulais parler, dans les quelques minutes qui nous restent, mais évoquer simplement le 20e congrès du Parti communiste chinois.
Oui,
mais je le ferai plus abondamment la semaine prochaine, parce qu'il faut savoir que le rapport introductif du secrétaire général du Parti communiste chinois, le fameux Xi Jinping, dont le nom est désormais connu dans le monde entier, a duré 2 heures. Et il est il tient à peu près sur 36 pages que j'ai feuilletées, mais je vous promets pour la semaine prochaine, non pas pour la semaine prochaine, parce qu'on se voit pas pour dans 15 jours, une analyse pointue du discours de M. Xi Jinping, donc discours introductif. Mais ce qu'il importe, c'est de tirer quand même quelques conclusions. Les quelques conclusions sont très très claires, c'est-à-dire qu'au niveau... Alors, j'explique la structure du pouvoir du Parti communiste chinois. Vous avez le congrès, quasiment 3000 délégués. Il sort du congrès un comité central, pratiquement 300 personnes. Hein, on réduit déjà de 90%. Il sort du comité central un bureau politique d'une trentaine de personnes. Et il sort du bureau politique le gouvernement, le vrai gouvernement de la République populaire de Chine, c'est-à-dire le comité permanent du comité central, c'est-à-dire 7 personnes. Personnes qui prennent toutes les décisions, qui se voient tout le temps, qui sont sélectionnées dans un processus de longue haleine. C'est pas des gamins. Ils ont travaillé ici et là. Ils ont été ministres de ci, ministres de ça, président
de région. Ils ont beaucoup d'expérience, quoi.
Voilà. Oui. Ils ont au moins 60 ans, entre 60 et 70 ans. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont beaucoup vécu à travers ce qu'a vécu la Chine avec sa transformation séculaire qui a eu lieu. Donc c'est pas une équipe de gamins. Et ce qu'on sait sur la constitution de la nouvelle équipe, donc du comité permanent du bureau politique, de cette équipe de 7, qui peut, alors, le nombre de 7 peut varier d'un ou deux, mais pas plus. Hein. C'est vraiment le cœur du pouvoir chinois, c'est que les éléments les plus... Alors, on va les qualifier de les plus mous, c'était ceux qui étaient les plus inquiets de la crispation des relations avec les États-Unis, avec l'Occident, ont été exclus. Le Congrès a clairement appuyé, ça fait partie des résolutions votées par le parti à la fin du Congrès, a clairement voté pour « on ne se laissera pas marcher sur les pieds ». Les zones administratives spéciales comme Hong Kong, Macao et comme Taïwan, ça continue à exister. On va se donner les moyens militaires de faire appliquer notre politique. Et donc c'est un renforcement du pouvoir militaire et un renforcement de l'affirmation « nous ne laisserons pas Taïwan partir de l'autre côté, dans l'autre camp ». C'est tout à fait clair. Ça doit être lu comme ça. Alors je donnerai plus de détails quand on fera le décortiquage de la résolution et du discours introductif de Xi Jinping, mais c'est tout à fait clair. Voilà. Donc ça c'est un élément important. Il y a un autre élément, c'est que, enfin ce qui va avec, les éléments les plus tendres, disons, les moins favorables à la tension, à ce conflit à venir, qui a été orchestré. Enfin, souvenez-vous de la visite de Mme Pelosi à Taïwan. C'est pas la Chine qui a décidé tout d'un coup de durcir le ton. C'est les États-Unis qui sont venus provoquer sur place. Bon, là, ils ont la réponse. C'est 2 mois après. C'était évident qu'ils allaient l'avoir. Ils l'ont. La Chine se donne les moyens de ne pas se laisser faire et de garder Taïwan dans son parti, dans son empire. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Et donc les éléments faibles, on avait parlé du Premier ministre, effectivement, M. Li Keqiang, il n'est plus membre du bureau permanent du Parti. ça c'est clair. Un autre non plus. Il va y avoir la montée en puissance du ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est sur une position extrêmement ferme aussi par rapport aux États-Unis. Tout ça fait partie de l'acquis de ce 20e congrès. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et y compris le fait que ce 20e congrès a confirmé quand même que malgré le Covid, malgré les difficultés dans les relations économiques internationales, les embargos ici et là et tout, parce que la Chine en souffre aussi d'une certaine façon, la Chine quand même, je donne quelques chiffres, vient de dépasser l'Allemagne comme premier exportateur mondial de voitures électriques. Ça y est, c'est eux maintenant les maîtres de la voiture électrique. Alors ils sont déjà les maîtres de l'éolien, ils sont déjà les maîtres des panneaux solaires, il ne reste pas grand-chose aux autres, mais ça c'est parce qu'ils ont décidé d'avoir une politique suivie, c'est-à-dire l'industrie automobile chinoise n'existait pas il y a 30 ans, c'est tout.
Il faut savoir que maintenant, plan économique, ils sont deuxièmes, je crois.
Oui, deuxièmes, ouais. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ouais. Et à un moment donné, alors on vient d'avoir les chiffres du PIB pour le troisième trimestre de 2022, le PIB de la Chine a augmenté de 3,9%. Alors, moi, je m'amuse toujours en voyant des journalistes occidentaux dire « Ça va pas bien, la Chine, hein, 3,9%. » Alors, nous, on est autour de zéro en permanence. Hein, on n'a rien. Et donc, quand
les Américains...
Voilà. Et eux, quand ils sont à 4, on dit oh, « C'est la crise, hein, la Chine. » Bon. Alors, on se satisfait de ce genre de chiffres, alors qu'en fait, les réalisations économiques concrètes sont très, très importantes et de très haut niveau. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Je revois mes notes. Donc, retenez bien quand même donc, la conférence donc, de Victor Dénage au sujet de l'embargo cubain. Donc, ouais. Jeudi 3 novembre à 17h à la Maison des Associations. Oui, vas-y, on t'écoute.
Est-ce que tu peux parler un peu de l'Iran, ce qui s'est passé, ces manifestations, pour éclaircir, si tu veux.
Alors...
Ouais. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas.
Très rapidement. Alors, il y a une annonce israélienne. Il n'y a personne. Bon. Non, il y a une annonce israélienne assez tonitruante disant on a bombardé toutes les installations iraniennes en Syrie, en gros. Bon. Alors là où ils fabriquaient des missiles, des drones, etc., il n'y a plus rien.
J'ai vu.
Bon. Alors, quel crédit accorder à cette information ? Peut-être pas beaucoup, puisque de toute façon, il y a eu effectivement des attaques sur la banlieue, des zones de la banlieue de Damas.
Oui,
c'est vrai. Mais par ailleurs, personne n'a dit.
J'ai vu l'aéroport, bon, voilà. C'est les pistes, c'est. Voilà. Ni plus ni moins.
Donc, en fait, je pense, pour moi, je lis ces affirmations donc, de l'état-major israélien qui dit on a détruit tout ce qui était militaire iranien sur le sol syrien, donc ce qui les empêche de dormir, mais ils ont annoncé ça. On est à combien de jours des élections législatives, pas beaucoup, quoi. Ça fait partie de la campagne électorale israélienne.
Ouais, ouais, ouais. C'est arriver. Ça, oui.
C'est tout. Hein. C'est donc ouais. Des rhodomontades classiques.
Surtout les manifestations, soi-disant, que c'était pour les voiles, c'était pour le...
C'est terminé, ça.
C'est terminé, oui.
Voilà. Moi, je veux bien dire un petit mot.
Oui, sur le Tchad.
Oui, par exemple, le Tchad ou même au Soudan. Hein, on parle des morts ukrainiens, mais au Tchad, des manifestations ont été sauvagement réprimées. Hein, il y a eu 150 morts.
Oui, 150 morts. Oui, 150
morts. Et 300 guerre. Blessés. Mais non, on s'en fiche.
Voilà.
Oui, non, le Soudan, c'est pareil. Hein, il y a eu tout autant aussi, de morts. Voilà, il n'y a pas que des.
Il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs au Soudan. Oui, on n'en parle pas du tout. Et ce sont de la junte militaire. Reproche.
Et alors, sur le Tchad, ce qu'il faut souligner, c'est que donc, c'est organisé par le monsieur qui a été porté au pouvoir par monsieur Emmanuel Macron, qui est le fils d'Idriss Déby, qui est mort, on le sait, dans des circonstances extrêmement louches. Mm-hmm. Hein, et donc, ce monsieur qui est à la tête d'un gouvernement de transition soutenu jusqu'à dernière seconde par la présidence française, a des ennemis, parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il n'est pas légitime et qu'il ne devrait pas être là et qu'il a été mis en place par la France. C'est encore un nouvel agent de la France-Afrique, voilà. Le fils d'Emmy, c'est tout. Voilà.
Bon. C'est les manifestations, d'ailleurs, portées sur le fait qu'il a été...
C'est bon,
il s'est reporté
on peut y aller.
Lui-même.
Alors,
pardon.
Non, mais on peut finir. On va finir avec un peu de musique, non ? Oui, on peut finir avec un peu...
Vous pouvez continuer parce que l'émission d'après ne vient pas.
Ne vient pas, voilà. Alors on va continuer pour introduire la musique que j'avais choisie. C'est une musique, donc c'est deux chanteurs brésiliens très connus qui chantent une chanson qui s'appelle Haïti. Alors pourquoi avoir choisi le thème d'Haïti ? Parce qu'il faut savoir que là encore, on est dans l'horreur absolue d'un des pays les plus pauvres du monde, qui est tellement envahi et infesté par des bandes de voyous, qui ont l'impunité assurée, c'est-à-dire il y a des bandes de voyous qui rackettent, qui contrôlent tout, etc. Le gouvernement, qui est là comme il peut, ne les réprime pas du tout. Et le gouvernement est en train de lancer une campagne en demandant il faut absolument qu'il y ait une intervention militaire étrangère pour faire partir les bandits. Et il y a aujourd'hui maintenant des manifestations très importantes d'Haïtiens qui disent « Non, 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 les interventions étrangères, on a déjà donné, on sait ce que c'est. Hein. Donc les bandits qui gouvernent et qui font la loi partout, c'est un prétexte, c'est un peu, et je prends l'exemple volontiers, c'est un peu comme les milices djihadistes à d'autres endroits, on les met en avant pour dire que ça va très très mal, et résultat, le lendemain, l'armée américaine est là. » Alors ils disent, ces manifestants dans les rues donc, de Port-au-Prince et des autres villes d'Haïti, disent « Non, non, les armées américaines, on les a déjà eues, on n'en veut plus, parce qu'ils n'apportent rien que leurs intérêts à eux, ils ne défendent pas nous, peuple haïtien. » Et ils disent, il faudrait qu'on ait un vrai gouvernement qui gouverne et qui se fasse respecter. Mais ce gouvernement est en fait est corrompu et entre les mains des voyous. C'est-à-dire qu'on a toujours, effectivement, je prends la comparaison.
Est-ce que les élections brésiliennes, là, il y a eu... Voilà.
Alors, ben, grande inconnue. Alors, on dit l'écart se réduit entre les deux candidats. On va voir. Hein, mais ah, ça sera d'accord. Un élément très important des nouvelles qu'on détaillera quand on se retrouvera. Donc, dans 15 jours, on sera le 1-7-8, le 8 novembre. On en parlera. On aura à fois à parler donc, des élections des mid-termes américains et de l'élection au Brésil. Et sûrement de beaucoup d'autres choses. Mais pas de bombes sales, je l'espère. Voilà. Donc, on écoute Haïti.
Allez.
Merci, Aïcha.
Merci.
Quando você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos, e quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti.
Na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal se é que vê tanto espírito no feto nenhum marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha,
e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba.
Pense no Haiti, reze pelo Haiti.